Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous garderez vos âmes. Dans ce qui peut nous advenir, le Seigneur veille sur chacun des cheveux. Et donc si un cheveu est important, combien celui qui les porte ou celle qui les porte est important. Et donc l'homme, petit rappel, je vous rappelle souvent ça, hein, que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et c'est le seul de toute la création, l'homme et la femme bien sûr, qui ont été faits à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa, c'est dans Genèse. Et fait par Dieu, fait pour Dieu, fait pour une relation avec Dieu. Non pas fait pour que nous soyons tout seuls sur cette terre, mais fait pour qu'il y ait une relation, une communion parfaite avec le Seigneur. Et donc si je vous demandais combien de cheveux vous avez sur la tête. Alors devant, bon, vous voyez de qui je parle là, ils disent on n'en a plus beaucoup. Mais tout de même, ils sont incapables de les compter. Et donc on en a entre 120 000 et 150 000. Donc déjà le nombre, la fourchette est importante. Et donc je me dis un cheveu, donc jusqu'à 150 000, ça veut dire que tu as une attention 150 000 fois plus grande qu'un de mes cheveux pour tout l'être qu'on est. Et puis le nombre de cheveux qu'on perd naturellement chaque jour, vous le savez ? 50 à 100. Donc aussi la fourchette est élevée, hein, mais puis compter 50 cheveux déjà c'est un petit peu compliqué. Et ce qui m'a amusé quelque part, c'est que je lui dis, mais on est combien sur la terre ? Alors déjà, la fourchette, elle est aussi large, parce qu'on dit qu'on est, donc selon les chiffres de l'ONU, on serait 7 milliards 755 millions. Alors là, c'est une estimation. Hein. Alors je me dis, Seigneur, si des grands chercheurs, des grands scientifiques qui ont des moyens énormes, parce qu'à l'ONU, on a quand même des moyens énormes pour compter la population. On n'arrive pas à compter la population qui a sur cette terre aujourd'hui même toutes les personnes qui vivent sur cette terre en ce moment. Et toi, tu connais le nombre des cheveux de 7 milliards 755. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et donc, je pense que vous allez plus regarder vos cheveux de la même manière. Alors souvent, moi, quand je lis ma Bible, bon, je dis, ah tiens, un cheveu, j'en vois, parce que bon, sur le blanc, ça se voit un petit peu plus. Alors, même s'ils ont tendance à devenir de plus en plus blancs, hein, mais je les verrai peut-être moins après. Mais c'est pas un problème, ça me préoccupe pas beaucoup. Mais ça m'émerveille de voir que le Seigneur connaît le nombre de nos cheveux. Donc ça veut dire que... Or, c'est vraiment pas un problème pour lui, je pense, nos cheveux. Mais ce qui est un problème pour nous, je pense que ça n'est pas non plus un problème pour lui. Et vous connaissez sans doute le psaume 139. Voilà. Alors, ce psaume, depuis longtemps, c'est vraiment tout l'émerveillement que Dieu me donne à parcourir sa parole et à vivre avec lui. Et donc au verset 1 d'abord. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Écoutez avec votre cœur là. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Et si on continue un petit peu plus loin, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient déjà tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Amen. Et souvent, ce psaume, ça me revient par petits morceaux, et je sais que le Seigneur m'entoure là où je suis, et que je n'ai rien à craindre, et partout où je vais, je peux voir aussi que lui m'a précédé, et je peux m'émerveiller. Et donc, je vais vous donner quelques exemples de petites choses pour les hommes, grandes choses pour Dieu. Il y a eu un lépreux dans Marc 1, donc de 40 à 46, un lépreux qui est venu voir Jésus. Un lépreux, à l'époque où Jésus vivait, c'était quelqu'un qui était rejeté, qui ne devait pas vivre auprès des autres de sa famille ou de la ville dans laquelle il était. Et celui-là n'était vraiment pas fait pour rencontrer Jésus. Il n'aurait pas dû croiser le chemin de Jésus. Et dans nos vies, on se demande quelquefois comment Jésus a croisé notre chemin. Mais en tout cas, il nous a croisés. Lui a cherché à venir à notre rencontre. Donc un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Et donc ce rejeté de la société, ça peut être nous, ça peut être différentes situations qui nous ont mis dans une situation de rejet. Et ce sont les gens qu'on évite de croiser. Jésus n'a pas eu peur de croiser un rejeté. Et la situation du lépreux, on trouve dans Lévitique 13 quelque chose qui a été dit au sujet des lépreux. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Et malgré le rejet, cet homme, il a croisé Jésus un jour. Et quand Jésus disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il disait aux disciples, vous direz, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le royaume de Dieu s'est approché de tous, que nous soyons rejetés ou bien lotis. Et le lépreux, à un moment donné, je crois qu'il n'a plus vu sa lèpre. À un moment donné, qui est tombé sur lui, c'est l'amour de Jésus. C'est l'acceptation totale et entière de Jésus, qui a fait qu'il a couru à Jésus et qu'il a pu crier à lui, « Si tu le veux, fais que je sois pur. » Et la fin de l'histoire est frappante parce que Jésus lui fait de sévères recommandations pour qu'il n'aille pas en ville. Bon, on a toujours du mal à comprendre. Jésus nous guérit, fait des grandes choses, et puis il nous dit de ne pas les témoigner. C'est pas ça exactement. Il disait donc à ce lépreux de ne pas aller donc en ville. Et finalement, c'est Jésus qui va se retrouver hors de la ville, ne pouvant plus entrer dans la ville pour annoncer le royaume de Dieu. Et Jésus a pris notre place. Rappelez-vous, la croix, elle était hors de la ville. Elle était en dehors de la ville. Et Jésus, sur la croix, a pris toutes nos iniquités, toutes nos maladies, tout notre rejet sur la croix, une fois pour toutes. C'est une image qui forcément nous marque, parce que le Fils de Dieu n'a plus le droit de rentrer dans la ville. Il a été mis sur une croix à cause de nous, et pour que nous qui avons été touchés par son amour, nous soyons délivrés, que ce soit du rejet ou d'autre chose, de notre péché en tout cas. Alors ensuite, l'histoire d'une petite graine, Marc 4, 30 à 32, il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Et donc la petite graine, vous voyez ce que ça peut donner entre la graine de moutarde, c'est ça? Et à mon avis, elle est plus grosse que du temps de Jésus. Parce que la sélection des fourrages et des légumes, 20 siècles, ça fait une évolution. Donc je pense que peut-être à l'époque, la graine était plus petite, mais je pense que l'arbre était plus grand. Les variétés de moutarde qu'on a en France, bon, elles sont plus petites que ça, elles vont peut-être faire 1,50 m au maximum. C'est une grande plante, et peut-être d'une autre variété que celle que Jésus voyait sous ses yeux. Mais en tout cas, une toute petite graine va se multiplier, et elle va produire un arbre immense, enfin immense pour des oiseaux, en tout cas suffisant pour les loger. Donc une semence pour le royaume de Dieu, ça peut être insignifiant, mais elle contient la vie éternelle, une vie sans limite. Pensez, un grain de moutarde en produit 200. 200 en produisent, je regarde Yves parce qu'il a mis la calculatrice en route, 200 en produisent 40 000, 40 000, 1 milliard 6. Et je me suis arrêté là. C'est phénoménal la multiplication d'une petite graine. Pensez une petite graine de foi dans votre cœur. Combien elle peut multiplier? Pensez à une petite graine de prière dans votre cœur. Combien elle va multiplier? Alléluia, Seigneur. Donne-nous de semer des petites graines de foi, des petites graines de prière chaque jour pour ceux qu'on rencontre. Et ce qu'on voit aussi à travers cette petite graine qui fait 2-3 mg, c'est que c'est une fécondité exceptionnelle. Les chrétiens sont appelés à être des hommes et des femmes féconds, qui portent la vie, qui la transmettent, qui la multiplient. Enfin, c'est Jésus qui la multiplie. Nous, en fait, on plante, d'autres arrosent, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Toujours dans les petites choses, 5 petits pains et 2 petits poissons, Jean 6. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et donc ce jeune garçon, je ne sais pas comment il est arrivé là. Est-ce qu'il était de passage ? Est-ce qu'il était à cette grande réunion de 5000 hommes ? Alors, je ne sais pas si les femmes et les enfants sont comptés. Donc on peut dire qu'il y en a sûrement au moins le double. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce petit garçon, avec tout ce qu'il a, il n'a pas grand-chose, mais il va l'offrir pour ceux qui viennent entendre Jésus, puissent continuer leur marche, continuer peut-être d'écouter. Et il va avoir une grande multiplication. Et Jésus a honoré ce jeune garçon d'un tout petit don qui est fait à la bonne place, au bon endroit, comme nous sommes souvent, de se rappeler si on est à la bonne place et au bon endroit et qu'on a juste une petite chose à faire. Juste une petite chose et le Seigneur va multiplier. Amen. Alors toujours des petites choses et de la multiplication. Mais des choses qu'on pense ordinaires mais qui sont extraordinaires tout de même. 1 roi 17, donc c'est la veuve de Sarepta qu'Élie a visitée. Élie ne s'est pas arrêtée là par hasard. Et donc elle répondit donc à Élie, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. » Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Et donc la vie ne va pas s'arrêter là, parce que Élie, parlant de la part du Seigneur, dit, donc Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Il alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Et donc la petite foi de cette veuve, qui était pour le coup vraiment petite parce qu'elle était à la fin de ses pensant à la fin de ses jours et pensant que tout était fini. Et la petite foi qui était quand même là s'est réveillée à la parole d'Élie. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Cette parole, elle est vivante, celle que vous avez entre vos mains. La Bible, c'est une parole vivante. Quand vous avez un tout petit passage entre vos yeux, j'allais dire entre vos mains, mais là, il est sous vos yeux ou entre vos yeux, ce sont des paroles de vie. Et même lorsque la foi voudrait dire « je n'en ai plus » ou « je n'ai plus de force », la fin est là. La parole de Dieu est une parole qui donne la vie. Ensuite, l'histoire d'une autre veuve. Marc 12, que j'ai pris dans la version parole vivante, parce que je la trouvais un petit peu plus explicite. Donc Marc 12, verset 41. « Puis Jésus s'assit en face du tronc et observa les gens qui y jetaient leur offrande. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent quand arriva une pauvre veuve. Elle y mit 2 piécettes de cuivre, valant quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, de tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, c'est cette pauvre veuve qui a donné le plus. Car toutes les autres car tous les autres, pardon, car tous les autres ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Oui, en quelque sorte, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. C'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. Il y a des balances. Vous voyez la petite qui est dans le... C'est pas une balance fausse. C'est qu'un petit caillou en pèse plus que 5 plus gros. Et bien sûr, le Seigneur regarde à l'offrande qu'on fait. Lorsqu'on fait une offrande, il regarde avec quel cœur on le fait. Et bien sûr, on ne gagne pas les uns les autres la même chose, on n'a pas les mêmes possibilités. Mais ce que le Seigneur regarde, c'est au cœur. Et comment nous donnons avec notre cœur, que ce soit visible ou invisible. Et là, il n'y avait rien de vraiment visible. Il y avait Jésus qui voyait le fond du cœur de cette dame. Et quelques centimes vont peser plus que de fortes sommes d'argent. Et donc ça a émerveillé Jésus, et je pense que ça a émerveillé les disciples, ça a été une leçon pour eux aussi. Cette femme a été enseignée, je ne sais comment, mais a compris qu'il fallait tout donner. Et donc je vous ai parlé de beaucoup de choses insignifiantes, peut-être pour le monde, mais d'une grande valeur pour Dieu. Et le Seigneur voudrait tellement nous donner son regard sur les petites choses. Les petites choses ordinaires, peut-être qui n'ont pas de signification pour le monde, ça ne fait pas les grands titres. Mais le Seigneur a une balance qui pèse avec exactitude, et quelques centimes peuvent valoir beaucoup plus que de grandes sommes d'argent. Et la pauvre veuve a donné selon son cœur et pas selon son raisonnement. Et nous pouvons apporter à Dieu que ce qui vient de lui. Ce sont des choses que le Seigneur a sanctifiées dans nos cœurs, des valeurs saintes, qu'il a déposées, des choses qui sont agréées par Dieu. Donc bien sûr, ce sont des choses qui ne sont plus charnelles, mais des choses qui sont spirituelles. Et peut-être que ces choses sont invisibles pour nos voisins, mais sachez qu'une petite graine à peine visible peut en produire 200, etc., etc. Et je vais finir par quelque chose qui continue de m'interpeller, c'est le lavement des pieds, qui était un geste très ordinaire aussi à l'entrée des maisons, quand on accueillait quelqu'un. Donc ça se trouve dans Jean 13. Donc ensuite, Jésus versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Qui lui dit, pardon, hein, donc c'est bien Pierre qui répond, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et donc, il y a tout un cheminement de la vie de Pierre. Nous le voyons dès le début, au moment où il est appelé par Jésus à le suivre. Jésus va lui donner un nom différent déjà. Et on le voit beaucoup, Pierre, parce que c'est quelqu'un qui est devant. Il est devant, il prend les devants, il prend la parole peut-être à tort et à travers. En fait, on pense que Pierre, il était en fait craintif et exprimait en fait cette crainte à travers des paroles qui pouvaient être dépasser sa pensée, en tout cas être dites sans avoir la pensée du Seigneur. Et à un moment donné, vous savez que le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan !» Alors que peu de temps avant, on lui avait dit qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, qu'aucun homme avait dit auparavant. Et il y a tout le cheminement de Pierre. Et le cheminement de Pierre, il est instructif parce qu'en fait, il nous demande de recevoir pour donner. Et si nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne recevons pas de la part de Dieu, qu'est-ce que nous aurons à donner? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et à travers ces histoires de vie, les nôtres, celles de Pierre, le Seigneur nous rencontre à un moment donné, le moment où on est ce qu'on est, on va dire. Mais en tout cas, il nous relève. Et à travers tout le cheminement, et ben ça commence par peut-être des pieds sales, puants, déformés, blessés. Et tout ça, c'est humiliant. C'est humiliant de se rendre aussi vulnérable entre les mains du Seigneur et de exposer nos blessures à découvert. Et Jésus commence par les pieds, et ces pieds qui ont marché sur cette terre de blessés par le péché. Mais c'est le geste d'accueil de Jésus. Il nous accueille comme nous sommes. N'oubliez jamais ça, il nous accueille comme nous sommes, avec des pieds comme ils sont. Parce que nos pieds restent cachés. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience du lavement des pieds, c'est plus facile à faire pour celui qui lave que pour celui qui reçoit. En tout cas, l'expérience que j'en avais faite, c'était ça. Mais comme je vous dis, ou je vous disais, il est plus important de recevoir dans un premier temps pour ensuite donner. Et si l'histoire de Pierre s'était arrêtée au lavement des pieds, qu'est-ce qu'il aurait connu? Alors que lui, avait affirmé qu'il irait avec Jésus jusqu'à la mort. Et peu de temps après, il a renié Jésus. Et bien sûr, quand le regard de Jésus et de Pierre se sont croisés, ça a été, je pense, cruel pour lui, mais en même temps, il y a quelque chose qui est mort en lui. Et donc, ce qu'il a compris, c'est que ce n'était pas par ses forces qu'il devait honorer Jésus, le suivre de cette façon, mais qu'il avait vraiment besoin de la grâce de Dieu, de la grâce du Seigneur pour pouvoir suivre Jésus. Et quand Jésus le revoit et lui demande « Pierre, m'aimes-tu ?» à trois reprises, en insistant bien. Et Pierre lui répète « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et en fait, à ce moment-là, Pierre reçoit la restauration, la guérison. Bien sûr, il reçoit le pardon aussi de Jésus. Il est important de recevoir cette guérison, de l'accepter, d'avoir reconnu qu'on avait été trop loin dans nos paroles, trop loin dans nos actions, de l'avoir reconnu, de demander pardon et ensuite de recevoir, de laisser ces vieilles apparences, ces pieds tordus et de laisser le Seigneur nous laver. Donc nous avons regardé des choses vraiment très simples, bien ordinaires. Et j'espère que je vous aurai donné le goût à regarder aux petites choses de chaque jour, à vous en émerveiller, à remplir votre cœur de contentement, de la présence de Dieu. Et ces petites choses que vous allez voir jour après jour, bien sûr, vont vous dire « Mais quel Dieu merveilleux! Mais quel Dieu merveilleux !» dans ces petites choses. Avoir un cœur comme un cœur d'enfant. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous a dit de venir à lui comme des enfants, avec la simplicité des enfants, avec une foi enfantine. Amen. Et je terminerai par Le psaume 37 au verset 4 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà. En faisant un petit tour d'horizon sur ces choses, j'espère que je vous aurai redonné un cœur d'enfant pour venir au Seigneur, revenir avec un cœur d'enfant. Regardez les choses avec un cœur d'enfant. Ne pas mettre le raisonnement en marche avec toutes les questions qu'on peut avoir et autant de questions, autant de non-réponses souvent, mais avec un cœur confiant. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen.